petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche, écrit Karl Marx dans le Capital en 1867. Ce n'est pas tous les jours que je me réfère à Marx, mais là j'aime bien parce que c'est curieusement du Marx anti-marxiste, en l'occurrence anti-matérialiste, qui insiste fort pour dire que l'homme n'est pas un animal. Notre ruche, notre habitat, s'entend dans une anthropologie, c'est-à-dire véritablement une science de l'homme. Avant Marx, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, a déjà pris, entre autres, l'exemple de l'habitat pour illustrer son concept d'homme perfectible qui distingue l'homme de l'animal. En langage du XXIe siècle, je dirais que l'animal qui bâtit son habitat le construit selon des règles fixes déterminées par sa programmation génétique. Il ne peut pas faire autrement. L'homme, lui, est libre, car il peut construire autrement que par le passé. Il met en question sa situation, son savoir-faire. Ainsi, il progresse et envisage demain autre et meilleur qu'aujourd'hui. L'Europe est progressivement passée de la hutte aux habitations d'aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que Rousseau et Marx disent à peu près la même chose sur cette spécificité humaine de mettre en question le déterminisme de naissance. Par sa conscience, l'homme est en capacité de se changer et de changer le monde. L'un, Rousseau, sera le philosophe précurseur de la Révolution française et l'autre, Marx, le philosophe précurseur de la Révolution soviétique. Mais ces deux philosophes révolutionnaires ne parlent pas que de changement politique. Ils parlent aussi et d'abord du changement de l'habitat. C'est un marqueur anthropologique de la rupture entre l'animalité et l'humanité. L'habitation a une autre dimension anthropologique. La maison n'est pas simplement un abri, c'est un chez-soi. C'est une possibilité d'intimité et de sécurité. Une habitation a des portes qui se ferment sur l'intérieur, mon intériorité, et qui s'ouvrent sur le monde et sur les autres. L'épanouissement de l'homme a besoin de cette alternance. La maison est aussi l'incarnation de la famille, sa protection matérielle, son adresse. Avant de savoir si l'habitat doit être évolutif, nous avons à nous demander si tout le monde a un logement. Hélas non. Et même en France, cinquième puissance économique du monde. L'idée reçue serait que la crise du logement provient d'un manque d'habitation en France. Arithmétiquement, ce n'est pas le cas. En revanche, il y a 1,8 million de logements vacants. Je ne parle pas ici des résidences secondaires. La loi a tenté de réduire ce parc locatif inhabité et souvent d'ailleurs plus ou moins inhabitable en l'état. Mais la loi se heurte au principe de propriété privée. En fait, le droit s'est détournée de la vision chrétienne de la propriété privée. L'Église approuve le principe de propriété privée, mais pas pour spéculer dans l'attente d'une vente à la hausse quand les cours montent. Le pape François rappelle dans la joie de l'Évangile en 2013, et dans les mêmes termes d'ailleurs, dans Laudato Si en 2015, que, je le cite, « la destination universelle des biens est une réalité antérieure à la propriété privée ». Fin de citation. Je ne suis que le garant de ma propriété. Celle-ci doit bénéficier à moi-même, mais aussi universellement à tous les autres. Je continue la même citation du pape. La possession privée des biens se justifie pour garder, d'abord pour un premier but, et d'accroître, deuxième but, ses biens, de manière à ce qu'ils servent mieux le bien commun. Fin de citation. Même les professionnels de la gauche ne rappellent pas ce principe de la destination universelle des biens pour faire pression sur les propriétaires. Pire, la plupart des catholiques ignorent ce principe de la doctrine sociale de l'Église. Point. Point, point, point. Alors, les propositions des propriétaires des appartements vides se croient légitimes de spéculer à leur seul profit, et la France ne parvient pas à libérer 800 000 logements sociaux décents et urgents. Du ressort de l'anthropologie et du progrès, l'habitat est un aspect essentiel d'une civilisation et de l'importance de son humanisme. On parle beaucoup du vivre ensemble, mais nos habitations sont trop souvent propices à ne voir dans son voisin qu'un gêneur. Il y a ainsi le bruit. Le bruit, pas seulement d'ailleurs le bruit des voisins, mais le bruit à l'intérieur de chaque logement, d'une pièce à l'autre. Le manque fréquent d'isolation phonique. Le bruit est source d'agressivité et de colère, alors que la technique d'isolation acoustique est aujourd'hui, depuis peu certes, très efficace. L'aménagement des espaces collectifs d'un immeuble est-il toujours étudié pour la paix ? Les rangements, par exemple, des poussettes et des vélos peut être source de disputes. Beaucoup de progrès à faire, mais de progrès possibles grâce à la modularité des espaces, de plus en plus d'ailleurs, cette modularité prise en compte. La cohabitation d'un jeune étudiant et d'une personne âgée est un point positif du bien vivre ensemble, aujourd'hui et demain. Mais cette cohabitation intergénérationnelle mérite une modulation des espaces en fonction du mode de vie de chaque génération. Autre point positif pour faire société, la gestion et l'utilisation de nouveaux espaces collectifs et participatifs. Salles de réunion et de festivités, chambres d'hôtes utilisables en fonction des invités de chacun, jardins co-cultivés, etc. Des économistes et sociologues comme Jérémy Rifkin au XXIe siècle ont même prévu de mettre le domicile au centre de l'activité économique au sein d'une société collaborative. Rifkin en particulier, il prévoit des habitations à énergie positive, qui désormais existent d'ailleurs, c'est-à-dire des maisons ou appartements qui, par énergie principalement solaire, produisent plus qu'elles ne consomment. Ces énergies mises en réseau dispenseront, selon Rifkin, des grands groupes industriels de l'énergie et rendront l'énergie à un prix très bas. Il y a là les fondements d'une économie collaborative de production, d'autant plus que de nouvelles techniques telles que les imprimantes 3D, c'est-à-dire en trois dimensions, qui fabriquent des objets ou organes comme une imprimante d'aujourd'hui imprime un texte à partir de documents numériques. Bref, de nouvelles techniques rendent le travail plus autonome et même à partir de chez soi. C'est un élargissement du télétravail et l'habitat doit prendre en compte son emplacement à l'intérieur du domicile. Bref, au moment où nous devons construire beaucoup, ne serait-ce que pour les familles recomposées, construisons pour l'avenir du bien vivre ensemble.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.